chaque épidémie s'accompagne d'une infodémie. C'est un phénomène qu'on connaît bien. Et le problème, c'est que l'infodémie, surtout les mauvaises informations, peuvent vraiment mettre à mal toutes les interventions qu'on va essayer d'engager pour contrôler l'épidémie. Avec la COVID-19, par exemple, il y a eu des rumeurs sur certains traitements qui pourraient sauver les gens, alors qu'en fait, c'était des poisons dangereux. Et donc, on a vu même des gens mourir à cause d'une mauvaise information. Les mauvaises informations, c'est pas seulement que ça déstabilise quelque part la communication, mais c'est aussi que ça peut avoir un vrai effet dans la réalité et tuer des gens, en fait, en promouvant, par exemple, des traitements miracles qui sont juste très dangereux. Mais c'est un effet aussi pervers, ces rumeurs, parce que, en fait, ça réduit la confiance dans les autorités, déjà. Ça réduit la confiance dans la science aussi, et la confiance, en fait, dans les agences techniques comme l'OMS. Du coup, les gens ont, en plus de la peur de la maladie et puis de toute la peur qui va avec les épidémies, vivent dans un climat de défiance, un climat où ils ne savent plus où donner de la tête, ni qui croire, ni que faire pour protéger leur santé. Avec cette pandémie, on en a vu encore plus les effets délétères à cause des nouvelles technologies d'Internet, des médias sociaux. C'est carrément un phénomène mondial qui prend différentes formes dans différents pays en fonction de la culture des gens, en fonction des craintes particulières qu'ils peuvent avoir, mais c'est un phénomène multiforme et donc encore plus difficile à gérer qu'avant.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples sur comment lutter contre cette mésinformation auprès des jeunes ?
On essaye surtout de qualifier ce phénomène, de le caractériser, parce que c'est très important si on veut prendre des mesures contre ce genre de phénomène, il faut pouvoir se dire ben, c'est quoi ce phénomène ? Donc on a créé une discipline scientifique, l'infodémiologie, pour étudier l'infodémie. On a mis ensemble des chercheurs de différentes disciplines, des gens de physique, de mathématiques, des spécialistes de l'information, des spécialistes de la communication, des chercheurs en sciences sociales, des épidémiologistes, pour tous réfléchir ensemble, en fait, quel est ce phénomène d'infodémie et quels sont ses paramètres dans notre société actuelle et comment on pourrait faire en sorte de mieux le contrôler pour le bénéfice de la santé des gens. Il ne s'agit pas de contrôler ça politiquement ou de faire de la censure, ce n'est pas du tout ça le but. C'est juste vraiment de s'assurer que les gens ont la bonne information au bon moment et au bon format pour qu'ils puissent agir et prendre les bonnes décisions pour leur santé, la santé de leur famille et la santé de leur communauté. Donc c'est comme ça qu'on a vu, en regardant un petit peu comment se diffusaient ces rumeurs. Récemment, il y avait une rumeur sur le fait que la COVID, c'est pas lié à un virus, mais lié à une bactérie, et que donc on pouvait se traiter avec des antibiotiques. Ou alors, on a des rumeurs qui disent « Bon, ben, si vous arrêtez de respirer pendant 3 minutes, vous pourrez savoir si vous avez COVID ou pas. » C'est ce genre de rumeurs donc, qu'on essaye de mieux comprendre et de voir comment elles diffusent. Une des bonnes façons, en fait, de contrôler ces rumeurs, c'est justement de donner la bonne information aux gens au bon moment. D'abord, d'écouter les gens, de se demander « Bon, qu'est-ce que ça veut dire bonne information pour vous au moment où vous la demandez ?» C'est-à-dire une information qui répond à leurs attentes, leurs angoisses. À certains moments, les gens sont plus angoissés par rapport au traitement ou par rapport au vaccin ou par rapport à la source de la maladie. Donc, il faut qu'on arrive à répondre à leurs questions au bon moment. Et puis, avec un format qui réponde aussi à leurs attentes, c'est-à-dire quelque chose qui soit intelligible pour ces gens. On a utilisé surtout des amplificateurs. On travaille donc par exemple pour les jeunes avec des groupes de jeunes qui nous disent, ben voilà, nous en ce moment, ce qui nous inquiète, c'est le fait qu'on est en train de stigmatiser la jeunesse, de rendre responsable la jeunesse de la transmission de la maladie. Tout ça parce qu'en fait, nous les jeunes, même si on a le virus, on n'est pas forcément très malade et on ne va pas avoir besoin d'être hospitalisé. Mais en fait, les jeunes, ils ont envie de faire partie de la solution, de pas seulement être un problème. Donc, on a discuté avec eux pour voir comment on peut encourager les jeunes à faire partie des solutions. Quelles solutions vous proposez pour qu'on puisse adopter des attitudes qui permettent de réduire la transmission du virus? Ça a été des échanges très, très fructueux pour nous aussi, en tant que professionnels de santé, parce qu'on a besoin aussi de mieux comprendre qu'est-ce qui va faire que les gens vont pouvoir nous aider à réduire cette transmission. Donc, avec les jeunes, par exemple, on leur a demandé... vous donne les messages, à vous de les transformer en quelque chose qui parle à la jeunesse. En Amazonie, par exemple, ils ont transformé les messages, au lieu de mettre des personnages humains, ils ont mis des grenouilles, parce que pour eux, les grenouilles, ça fait partie de leur environnement et c'est un animal qu'ils aiment beaucoup. Donc, c'est les grenouilles qui mettent en place la distance physique, les grenouilles qui peuvent mettre des masques, et les messages passent beaucoup mieux ainsi. Avec les groupes religieux, on a fait pareil, on leur a dit, voilà ce qui est dangereux en ce moment, et voilà quel genre de comportement il faudrait conseils que les gens adoptent pendant qu'on est dans cette phase pandémique. Donc, comment vous pouvez faire pour adapter les offices religieux à ces recommandations, de façon à ce que les gens puissent continuer à suivre les offices religieux, mais en même temps ne pas se mettre dans des situations à haut risque? Parce qu'on a vu au début de la pandémie qu'il y avait beaucoup de flambées épidémiques qui avaient été liées à des cérémonies religieuses. Parce que les gens se rassemblent et puis se touchent, sont proches. Et donc, c'est difficile, en fait, d'empêcher la transmission du virus. On a réfléchi avec eux comment on pouvait faire. Alors, par exemple, les bouddhistes, ils ont dit, nous, dans nos temples, c'est assez facile parce qu'on a déjà un circuit où les gens ne sont pas censés se croiser. Donc, on a essayé de voir si dans d'autres religions, on pouvait aussi organiser, finalement, la marche des gens qui viennent assister à ces offices religieuses, pour éviter qu'il y ait trop de contacts physiques et de rapprochements physiques, tout en permettant à ces rassemblements d'avoir lieu, mais dans des conditions qui soient plus sûres.